On vous coiffe, on vous maquille, on vous fait bio de pied en cap. Mesdames, ce soir, c'est shopping éthique. Les vêtements, c'est la spécialité de Fleur de Coton et Julie Désiry. Vous n'avez pas de magasin, Julie?
Non, on n'a plus de magasin, malheureusement. Et en ce moment, on vend surtout sur les foires et salons bio. Et nous avons un petit site internet, fleurdecoton.fr, où on peut commander en ligne.
On peut commander en ligne. Oui. On va en parler tout à l'heure pour voir si ça marche. Qu'est-ce que vous vendez?
Alors, nous vendons des vêtements et des sous-vêtements pour toute la famille, du bébé jusqu'à l'adulte.
Alors, bébé, c'est les couches, on va y revenir aussi. Qu'est-ce que vous entendez par coton bio? Il y a une définition bien spéciale.
Alors, le coton bio, c'est-à-dire qu'il est cultivé sans engrais, sans pesticides, il est ramassé à la main. Et en plus, il est filé confectionné, et les vêtements sont confectionnés en commerce équitable, c'est-à-dire que les ouvriers sont payés, mieux payés que la normale, ils ont des couvertures maladie. Voilà.
Et quand il est cultivé, normalement, le coton, en revanche, il est polluant, vous
oui.
dites ?
Alors, dans l'esprit des gens, le coton, c'est une plante, c'est naturel, mais en fait, il faut savoir que c'est une des cultures les plus polluantes au monde. C'est 25% des insecticides, 10% des pesticides, dont les plus dangereux. Et beaucoup d'ouvriers meurent dans les champs, justement. Le bétail des fermes alentours est empoisonné. Enfin, c'est une vraie catastrophe écologique.
Alors, d'où viennent les vêtements que vous vendez, vous?
Alors, nous avons des t-shirts qui viennent du Pérou, dans un coton qui s'appelle le coton tanguis, qui est une spécialité du Pérou, et qui est beaucoup plus doux que le coton qu'on trouve habituellement en magasin. Et nos sous-vêtements sont fabriqués en Turquie, qui en Europe est un des plus gros producteurs de coton biologique.
Comment vous les avez d'abord sélectionnés, d'abord trouvés et ensuite sélectionnés?
Alors trouvés, en fait, c'est Poétique, la marque de sous-vêtements qui nous a trouvés, nous. On avait à l'époque une boutique de lingerie traditionnelle et ils nous ont demandé si on voulait bien vendre leurs produits bio dans notre magasin. Donc on a commencé par ça. On s'est aperçu qu'il y avait énormément de femmes qui étaient très allergiques à toutes les matières synthétiques qu'il y a dans les sous-vêtements. Et même si elles n'étaient pas attirées par le bio principalement, elles venaient surtout pour le coton. Donc ça a commencé à bien marcher. Et nous, dans notre vie personnelle, on était très bio et on s'est dit qu'il fallait que notre vie professionnelle rejoigne ce qu'on pensait à... Voilà, personnellement. Alors, donc, on s'est lancé dans le bio complètement.
Qu'est-ce qui vous garantit qu'ils sont bio?
Alors, les fabricants demandent aux producteurs de coton des certifications qui sont données par des organismes internationaux. Et donc, les fabricants, nous transmettent leurs certifications.
Ces certifications-là, vous pouvez nous en citer quelques-unes?
Alors, il y a GOTS, qui est un organisme de Hollande. Et donc, ça, c'est pour le coton qui vient du Pérou. Et pour le coton qui vient de Turquie, je crois que c'est le certificat IMO, ça s'appelle, et c'est un organisme suisse.
Alors c'est quand même un vaste problème ça, parce que pour se retrouver dans les certifications, c'est vraiment difficile.
Oui, ça c'est plus, disons que là pour nous, c'est plus le problème du fabricant qui s'assure lui que le coton est bien biologique. Après, c'est la répression des fraudes qui est censée faire le travail s'il y a un doute.
Ah oui, donc il y a un contrôle étatique sur ce genre de classification.
Si quelqu'un a un doute, on peut toujours, je pense, saisir la répression des fraudes pour s'assurer que le coton est bien biologique.
Donc vous en avez la certitude intime, c'est du bio.
Moi, je travaille avec des petites entreprises françaises auxquelles je fais confiance. Parce que dans le bio, il y a aussi une histoire de faire confiance, de travailler différemment dans le commerce traditionnel.
Donc vous êtes en confiance, ça doit marcher comme ça finalement.
C'est aussi un projet pour nous de changer un peu le mode de fonctionnement de la société. Ouais. C'est un projet global.
D'accord.
Donc oui, effectivement, et surtout avec la marque Pachama, qui fait donc les t-shirts. Là, nous, on va les voir nous-mêmes à Toulon. Ils sont pas loin de chez nous. Et donc oui, là, c'est un vrai partenariat.
Alors, on va repartir des plus petits pour aller jusqu'aux plus âgés. Refaites les couches lavables, c'est-à-dire qu'on retourne vers les couches lavables de nos grands-mères?
Oui. Alors, c'est pas notre spécialité, les couches lavables. Mais en tant que maman, moi, j'aime bien sensibiliser les autres mamans aux couches lavables parce que je pense que c'est aussi un très gros problème écologique, les couches jetables qui font des millions de déchets dans le monde. Et donc, on a une petite collection de couches lavables pour montrer donc sur les salons à quoi ça ressemble et que c'est pas si difficile à utiliser, que c'est pas les couches qu'utilisaient nos grands-mères, que c'est devenu assez moderne et avec les machines à laver, tout se passe bien, on peut même travailler et avoir des couches lavables pour son bébé.
Alors c'est un argument porteur ou les femmes sont encore un peu réticentes?
Il y a de plus en plus de familles, de femmes et d'hommes, hein, parce que les pères, c'est un projet familial, hein, les pères aussi vont les utiliser. Et qui viennent se renseigner sur les salons énormément, oui, ça,
Ça a quelle durée de vie, une couche lavable ?
Ça a une durée de vie pratiquement infinie, puisqu'on peut les passer d'un enfant à son deuxième enfant, voire à les vendre d'occasion. Il y a un marché d'occasion énorme. Donc ça fait bien, peut bien faire 5-6 enfants sans problème.
Sortons les couches lavables, regardons les spécialités. Qu'est-ce que vous avez comme spécialité ?
Alors nous, donc notre spécialité, ce sont les t-shirts de chez Pachama. Donc nous avons choisi cette marque parce que c'est une marque qui propose un style streetwear assez moderne, avec des couleurs assez vives, très tendance en fait, et qui peuvent plaire justement à des gens qui ne sont pas spécialement sensibilisés par le bio, mais qui vont flasher sur ces produits, et on s'en rend compte à chaque fois qu'on fait des salons.
Et vous allez vous ouvrir à d'autres vêtements ou à d'autres produits que le coton ?
Je ne pense pas. Non,
c'est
vraiment...
trop difficile ou
c'est pas que c'est trop difficile,
d'une autre organisation
mais... Sur les salons, maintenant, les gens commencent à nous connaître, savent qu'on distribue telle et telle marque et veulent voir les nouveautés de cette marque-là. Et pour nous, qui sommes une petite structure, c'est un peu difficile maintenant d'avoir vraiment beaucoup d'autres produits à présenter.
Quel genre de salon vous faites ?
Alors là, on vient de finir Biograss, par exemple. On a fait un salon à Guillaume cet été. Et au mois de juin, on était à Saint-Laurent-du-Var, on a essayé Villars-sur-Var.
Donc votre zone de compétence, ce sont les Alpes-Maritimes.
Pour l'instant,
vous voulez aller un petit peu à l'extérieur ou pas ?
On l'envisage peut-être dans l'avenir, mais pour l'instant, on se cantonne au 06 pour l'instant.
Et sur Internet, ça marche ?
Alors pour l'instant, sur Internet, ça commence doucement, parce que une fois que les gens nous ont connus sur les salons, ils peuvent aller voir les nouveautés sur le site internet. Et comme il n'y a pas de salon l'hiver, malheureusement, on va s'attaquer cet hiver à mieux référencer notre site et à mieux le faire connaître pour avoir une activité aussi l'hiver.
Merci Julie.
Merci.
Pub, votre site.
Donc www.fleur-de-coton.fr.
Merci. Artisans du monde, vaste programme. L'association a été fondée dans quel but, Charlotte Mercati ?
Alors l'association a été fondée dans le but de promouvoir le commerce équitable. Et donc cette promotion s'articule autour de trois axes, qui est d'abord, puisqu'on parle de commerce équitable, un axe commercial qui se situe sur la vente de produits qui sont généralement en provenance des pays du Sud. Mais au-delà de cette démarche commerciale, on souhaite développer un axe éducatif et informatif afin que le consommateur connaisse la provenance des produits qu'il consomme et la connaissance effectivement du petit producteur qui est à l'origine de cette production.
On va revenir sur tout ça. Vous êtes une responsable de Nice. Votre spécialité, ce sont les produits équitables. Comment on les reconnaît par rapport au tout venant ?
Les produits du commerce équitable, alors les produits Artisans du Monde sont distribués donc dans le réseau de boutiques d'Artisans du Monde. Donc nous avons un logo qui est aussi la marque Artisans du Monde. Et sinon, il est certes vrai aussi que les produits du...
Mais ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Vous nous dites vous avez des produits de commerce équitable parce que c'est vendu par Artisans du Monde. Mais certes, mais comment les définissez-vous et comment les choisissez-vous, les repérez-vous, les acquérez-vous ?
D'accord. Donc Artisans du Monde travaille avec une plateforme d'achat qui s'appelle Solidar Monde, qui elle est en partenariat avec donc des producteurs. Et donc nous, en tant que boutique, nous commandons à la centrale, et la centrale elle-même fait le lien avec les producteurs qui sont ou sélectionnés sur place par des missionnaires, par cette centrale-là, ou des producteurs qui font la demande effectivement. De venir vers nous et de pouvoir rentrer dans cette centrale. Donc à partir du moment où, par exemple, un producteur décide de rentrer dans le réseau Artisans du Monde, effectivement, il y a un délai de vérification sur la qualité et sur l'équité de son travail avant de pouvoir rentrer dans cette centrale.
Comment vous défendriez le commerce équitable ? C'est quelque chose d'éthique ou c'est un bon moyen de rentrer dans un circuit commercial différent ?
Alors oui, effectivement, c'est prouvé qu'on peut faire du commerce avec des règles et des valeurs morales,
Vous avez l'éducation aussi ?
Oui, alors tout à fait. Donc l'éducation, effectivement, c'est par exemple s'intéresser aux, au jeune public, hein, qui est futur consommateur, de lui expliquer qu'il se retrouve face à une consommation de masse et que le commerce équitable existe et qu'il est à même de pouvoir faire un choix entre deux types de consommation.
D'accord. Et généralement, vous pensez que ceux à qui vous vous adressez sont des gens qui vont aujourd'hui avoir conscience de ça et votre discours porte ou pas ?
Ah oui, notre discours porte chaque jour de plus en plus.
Le plaidoyer aussi, vous m'avez parlé
alors
du plaidoyer,
effectivement, donc
et ça c'est
parlé...
un peu obscur le plaidoyer.
Donc le plaidoyer, c'est effectivement, on va dire que c'est au-delà donc, de l'acte de commerce, on considère que plus le petit producteur va avoir un poids économique et commercial, plus sa voix va pouvoir être entendue de manière politique. Donc nous, dans nos actes de plaidoyer, justement, nous aidons donc à la fois le petit producteur en mettant ses produits dans un réseau de distribution et à la fois en le défendant avec d'autres collectivités de solidarité dans la défense de leurs droits.
Mais un plaidoyer, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, un plaidoyer, c'est une campagne d'information sur...
C'est un peu de la pub, si vous voulez. Bon, éthique, mais de la publicité en faveur...
Alors, c'est une action de communication. C'est une action de communication qui fait connaître effectivement les problèmes et qui est censé donc les faire connaître du grand public, afin qu'il y ait une mobilisation générale qui se passe et que les pouvoirs publics soient entendus.
Vous avez eu un exemple de plaidoyer qui ait eu un résultat ?
Alors, donc, oui, effectivement, je vais vous citer juste un exemple sur sur l'Amazonie, sur la défense, lors du commerce, de la quinzaine du commerce équitable, nous avons défendu le droit des peuples indigènes. Et effectivement, les plaidoyers ont abouti à une rétribution à un peuple qui s'appelle les...
Ah là, je ne pourrais pas vous aider.
Oui, alors qui s'appelle les Quilombolas. Ouais. Et donc, effectivement, ils ont pu récupérer une partie de leur terre qui leur appartenait de manière ancestrale. Et ça, l'État. Alors, grâce aux plaidoyers.
D'accord.
Grâce aux plaidoyers. Alors, Artisans du Monde est un mouvement citoyen. Et on travaille aussi donc, avec d'autres associations de solidarité. Et donc c'est effectivement cette force et ce groupement de voix qui fait avancer les choses. Nous, en plus, on a aussi une action commerciale et au-delà de défendre ces petits producteurs, on les aide en plus à se développer de manière économique et sociale.
Donc le commerce équitable que vous défendez, il se situe principalement en Amérique latine, chez les Indiens ?
Alors pas du tout. Là, ça a été effectivement le thème qui a été choisi, pas principalement. Ça a été le thème qui a été choisi. On considère que quand on mène une campagne... On essaye de se pointer d'une manière claire sur un problème. On sait très bien que c'est toujours peut-être au détriment d'autres choses qui se passent ailleurs dans le monde. Malheureusement, il faut faire des choix. Et donc, lors de cette quinzaine, c'est le choix des droits des peuples indigènes qui a été défendu.
Dans le commerce équitable, comment vous pouvez prouver l'efficacité de votre action ? Quels sont les résultats sur les peuples qui produisent, les producteurs ?
Alors, par exemple, dans la production du café... Effectivement, il y a des développements économiques qui ont été faits, il y a des coopératives qui ont été créées, des villages qui se sont développés avec des accès à l'eau potable, des créations d'écoles, des créations de routes. Il y a vraiment un développement économique qui se fait sur le lieu de production du produit.
Alors shopping éthique, ça semble un petit peu contradictoire quand même. Shopping, c'est un petit peu futile, éthique, c'est plus sérieux. On peut allier les deux ?
Alors oui, on peut tout à fait allier les deux. C'est-à-dire que avec des produits de qualité, on arrive à la fois à défendre une cause et à apporter un produit bienfaiteur à l'utilisatrice. Je pense par exemple au beurre de karité. C'est un produit qui dans la démarche beauté est très 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 intéressant. Donc c'est l'histoire d'une femme qui en Afrique au Burkina Faso a décidé de réunir des femmes qui étaient dispersées et illettrées, qui produisaient elles-mêmes leur propre beurre de karité. Elle a décidé d'en faire une coopérative. Il y a une rencontre qui s'est faite avec des membres d'Artisans du Monde qui sont les SICAR et qui ont initié ce projet. Et aujourd'hui, le beurre de karité est un produit qui est en distribution dans nos boutiques. Et grâce à cela, on a un développement, donc, effectivement, et des conditions d'amélioration de vie de ces femmes au Burkina Faso. Et nous, ici, femmes européennes, bon, on a la possibilité d'utiliser un produit qui est vraiment excellent.
Ça se fait aussi sur d'autres produits ?
Alors, oui, il existe d'autres produits de beauté. Il existe aussi des vêtements, de l'alimentaire, de l'artisanat, du bijou. Moi, j'ai décidé de parler aujourd'hui du beurre de karité parce que c'est vraiment un
l'exemple,
produit...
L'exemple de votre action.
Voilà, qui est vraiment l'exemple de notre action parce que du coup, ce sont des gens fondateurs de l'association d'ADM Nice qui ont été aussi à la source de ce projet. Donc c'est aussi une manière de leur porter hommage ce soir.
Merci Charlotte.
Alors Artisans du Monde, nous sommes situés dans une petite rue près de la gare Thiers. Donc il est effectivement pas facile
de
nous trouver. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'un site en ligne va être ouvert pour des commandes. Et si, effectivement, bah, puisqu'on est ici sur Monaco, une boutique ou quelqu'un voulait bien être dépositaire de ce site internet pour venir, donc, c'est ce qu'on appelle un lieu de dépôt des envois où les gens pourraient venir récupérer leurs commandes. Bon, bah voilà, qu'ils prennent commande avec.
Vous pouvez nous donner le site ? Ou il n'est pas encore créé ?
Il est en train d'être créé. Oui, voilà. Enfin, de toute façon, sur Artisans du Monde, vous aurez toutes les informations. Sur le site artisandumonde.org, vous aurez toutes les informations. Et merci de nous recontacter pour
un
contact sur Monaco. Pourquoi pas.
Les collectifs des créateurs Aspire Arte, c'est Sébastien Cabot. C'est un petit peu ce que vous voulez faire, les rencontres ?
Bonsoir, exactement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de promouvoir. Enfin, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'axes. Promouvoir en général tout ce qui est fait de façon respectueuse pour l'homme et pour l'environnement. Donc, ça peut prendre diverses formes. Dans ce qui est partie collectif de créateurs, parce que l'association Esperarte, c'est deux choses, et collectif de créateurs et projet d'économie solidaire. L'un mange l'autre, mais donc il y a une partie vraiment création, où vous avez des créateurs français, créatrices énormément, en vêtements et en bijoux, voilà, que l'on va essayer de promouvoir avec un magasin situé en team, et un site internet, et une partie projet d'économie solidaire, où vous avez tout ce qui est commerce équitable, AMAP, panier bio, enfin, des ateliers avec les enfants, des soirées citoyennes où on fait venir des gens, voilà, pour promouvoir ce qu'ils font. Donc c'est assez.
On va commencer par le début. Ce que vous appelez les collectifs des créateurs, qu'est-ce que c'est ?
Alors les collectifs des créateurs, c'est un collectif de créateurs un peu écolo. Pour ça, éco. Donc à l'heure actuelle, il y a une vingtaine de créatrices.
Que des femmes.
Essentiellement, qui exposent leurs créations sur le point de rencontre au 10 rue de la Tour à Cantim. Donc vous avez la dinette, vous avez patatrac en coton bio, parce que bien évidemment tous les créateurs n'ont pas forcément ne sont pas forcément coton bio. Pour un petit créateur français, quand il démarre, c'est pas évident d'acheter en bio directement.
Pourquoi ?
Au niveau des prix, l'approvisionnement, et puis parfois ça commence un tout petit peu, puis petit à petit ça devient plus important dans la production, et puis c'est généralement c'est ce qui se passe. Donc voilà.
Quel type de vêtements vous faites alors ?
Alors c'est des vêtements de mode, donc essentiellement pour la femme, l'enfant. La femme et l'enfant, c'est la base. Un petit peu pour les hommes, histoire de dire qu'on en a. mais voilà, donc ça va dans tous les styles. Vous avez...
C'est des vestes, des ponchos.
Mais c'est plutôt axé sur la mode. C'est-à-dire que bon, autant il va y avoir une ancienne styliste créatrice qui travaillait dans la haute couture. Autant vous avez Lili Palouli. Il y a plein de jeunes créateurs comme ça qui s'inspirent de partout. Donc vous avez des styles vraiment très variés et très complémentaires au final.
Où est-ce qu'ils s'approvisionnent vos créateurs pour leur collection ? Ils vont chercher directement chez les tisseurs ou ils passent par un intermédiaire ?
Les deux. Voilà, les deux, ça dépend. Il y en a, ils sont recyclés, vêtements de création unique et en recyclé. Et d'autres, je vous dis, en coton bio. Il y a par exemple dans le lot sur les quinzaines de créatrices, on va dire, il y a deux personnes qui font faire en Inde dans le principe du commerce équitable et des coopératives. qui sont en coton bio d'ailleurs, parce que produire en coton bio en Inde et faire là-bas, c'est moins cher qu'ici. Donc c'était aussi plus simple pour eux. Voilà, ça prend divers aspects.
Et vous faites des bijoux aussi, des bijoux qui sont particuliers, des bijoux originaux, parce qu'ils sont faits avec de l'herbe.
Voilà, alors...
Ça, c'est votre spécialité.
Ça, c'est nos rencontres personnelles. On travaille depuis 7 ans avec des Amazoniens sur notre projet agroécologique amazonien qui représente 2000 familles. Pour ce qui est du guarana, cacao, copaï, banjiro, des huiles, des plantes de lava. Et donc on va au Brésil depuis 7 ans. Et sur un voyage il y a 2 ans, à Rio, on est tombé sur 2 vendeurs de cacao. Donc sur les marchés, pas dans les boutiques. On se demandait qu'est-ce que c'était. On est allé voir les personnes qui présentaient les coopératives là-bas. Et puis c'est comme ça qu'on est rentré en contact en fait avec elle directement par la suite. Et c'est une capitule, une hélichrysome comme les immortelles de chez nous en France, mais qui a une couleur dorée.
Voilà, et c'est très beau, hein. Je peux témoigner. Vous en avez amené un bijou. C'est magnifique.
C'est le but de faire connaître, parce que ça peut aussi devenir un peu le porte-parole pour l'association et faire venir les gens sur le site internet esperarte.org et donc faire découvrir, oui bien sûr, et faire découvrir forcément donc les créateurs locaux et puis aussi un petit lien la-bdis.org qui est sur notre site. C'est une sorte de cartographie des acteurs d'économie solidaire en France, où vous pouvez avoir nos amis qui parlent ce soir, donc référencés aussi, tout en se déplaçant vers sa ville. Vous trouvez, ah, et tiens, son local, son petit lien, ça c'est très très important. Voilà, parce qu'on a tout un...
Alors, deuxième aspect d'Esperarte, c'est l'économie solidaire. Là, c'est plutôt à l'état de projet, sauf le AMAP que vous avez déjà créé.
Oui, il y a un point de livraison de paniers bio qui se trouve à la rue Saint-Sauveur, au Vieux Canet. Quand on a débarqué de Toulouse, parce qu'on est une association toulousaine créée en 2005 et qui a toujours œuvré là-bas, jusqu'en 2008, date à laquelle on est arrivé sur la Côte d'Azur, et on est arrivé dans un petit local au Canet, et c'est là-bas qu'on a lancé ce premier projet, donc qui court toujours, qui continue toujours, grâce au restaurant Les Anges, qui se trouve à la rue Saint-Sauveur, qui a bien voulu faire lieu de réception pour les paniers. On travaille avec Guy Tordeau, qui est un producteur à la ferme du Cantareou, à Roquebrune-sur-Argent, qui vient livrer depuis l'été dernier, donc ça va faire un an, pour 45 familles, voilà, des paniers en fruits et légumes bio, et donc les gens se découvrent, se rencontrent, on fait un petit apéro, repas, rencontre sur le lieu de production, les enfants vont jouer dans la forêt. Enfin, c'est très sympa de faire ce genre de choses. Après, ça peut déboucher aussi. Vous avez un petit noyau de personnes avec qui vous mangez, et puis vous mangez un peu la même chose. Et puis, enfin bon, bref, puis vous pouvez faire un petit, pas une sorte de sel, mais un petit troc d'objets une fois par, voilà, tous les 3 mois, où chacun amène ses babioles plutôt que. Enfin bon, voilà, ça fait un tissu, un lien social, et voilà, c'est un peu le but de la MAP, en plus de manger. Comme il faut, en plus il est en biodynamique, alors il nous a expliqué un petit peu ce que c'était. Enfin, bref. Donc ça, il devrait y en avoir une autre à MAP avec ce même producteur. Il peut livrer une trentaine de paniers sur le 10 rue de la Tourac en team. Et si tout va bien, ça commencerait à la rentrée. Voilà. Donc il y a déjà quelques personnes inscrites. Il faut se présenter au local, nous appeler, où vous avez les coordonnées sur le site, voilà, pour s'inscrire.
Ben voilà, merci.
Voilà.
C'était Esperarte et c'était Sébastien Cabot qui nous a expliqué comment il faisait pour les collectifs des créateurs. On va retrouver dans un instant le Bazar Bio et l'association Chamarane.